Vous écoutez, on lit pour vous.
Face à l'inacceptable, une chronique de Guillaume Kaltenbach parue le 24 juin 2025 dans Ombres et Lumières. Une pénible histoire vécue par Roxelane et un certain nombre de ses camarades de classe depuis plusieurs mois m'a fait passer des mauvaises nuits ces derniers temps. Colère, réprimande, mots déplacés et dévalorisants. Nous sommes plusieurs familles à estimer qu'une personne n'a pas les paroles et attitudes adéquates avec nos enfants en classe, avec des agissements qui, nous semble-t-il, auraient été considérés comme inacceptables face à des élèves ordinaires. Pendant longtemps, je n'ai rien soupçonné. Roxelane et ses camarades ont la parole rare, voire inexistante. Ma fille est dans l'incapacité de porter le moindre jugement sur ce qui est conforme ou déplacé de la part des adultes. Elle n'a pas accès au second degré. En revanche, elle sait exprimer ce qui la contrarie et je repère ce qui la rend agressive. J'ai d'abord mis cela sur le compte de sa propre sensibilité et de maladresse de la part de l'environnement dans lequel elle se trouve. Ces premiers signaux sont devenus des signaux d'inquiétude forts lorsque je me suis rendu compte que d'autres parents étaient confrontés à des états similaires relatés par leurs propres enfants. Ce parallèle des situations a changé la donne. Il nous a poussés à agir et à nous manifester. Au total, nous avons mis 2 ans à décoder les troubles du comportement de notre fille. J'ai été réticent à me manifester, au départ, par crainte de représailles. Que c'est difficile de reconnaître, puis de faire savoir qu'on a un gros doute sur la qualité du travail de la personne chargée de s'occuper de son enfant chaque jour. Par nature, je fais spontanément confiance à ceux qui interviennent auprès de ma fille. Je me suis interrogé, et s'il vivait cette remise en question comme une forme d'accusation? Et si le professionnel en question changeait d'attitude face à mon enfant? La crainte bloque l'action. Et puis j'ai eu peur de perdre la place de ma fille dans l'établissement. Tout avait pourtant si bien commencé quelques années plus tôt. C'est tellement inespéré d'avoir une place dans une structure que j'ai réfléchi à plusieurs fois avant d'entreprendre une démarche qui risquait de me coûter la place. Ai-je vraiment envie de récupérer mon enfant à domicile? L'herbe sera-t-elle plus verte dans l'établissement voisin le jour où j'aurai une place? Je me sens bien petit face à ce type de considération. À plusieurs parents, nous avons pris notre courage à deux mains et avons fait le nécessaire pour alerter en exposant les faits de la façon la plus factuelle possible. Fait-on bien? Fait-on mal? Le discernement fait remonter bien des scrupules. On se dit finalement qu'on accomplit tout cela pour le bien de nos enfants. J'ai été naïf. J'ai pensé qu'en relatant les dysfonctionnements à plusieurs, les procédures d'alerte et de vérification allaient se mettre en place très rapidement. J'ai pensé que chacun aurait la possibilité d'exprimer son point de vue pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Les choses ne se sont pas déroulées de cette façon. Il a fallu escalader, alerter plus haut dans la hiérarchie, avec toute la pesanteur de chaque message qu'on envoie. Nous avons déjà tellement d'autres choses à faire quand on est parent d'enfants handicapés. À ma grande consternation, j'ai vu les faits remonter par nos enfants mis en doute sans préalable, sans proposition de dialogue, avec la douleur que cela entraîne. Face à ce que je considère comme du déni, la colère a commencé à prendre le dessus. Ce n'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap que nos enfants ne peuvent pas exprimer leur point de vue, même avec toutes les précautions d'interprétation. J'ai le sentiment désagréable que toute notre démarche n'aura servi à rien, que les choses continueront comme avant. L'effet aurait-il dû être plus grave pour que l'immobilisme ne prenne pas le dessus? Pourtant, il s'agit de santé mentale de jeunes adolescents. Notre fille et d'autres de ses camarades ont touché le fond. D'autres auraient tenté de mettre fin à leur jour. Il ne faut pas croire que cela n'existe pas dans l'univers du handicap. Nous, parents, avons vécu toute cette réalité de façon douloureuse et le soutien respectif porté aux uns et aux autres nous a apporté un réconfort que personne ne nous ôtera. C'était « Face à l'inacceptable », une chronique de Guillaume Kaltenbach, parue le 24 juin 2025 dans « Ombres et lumières ».
Vancouver a toujours les loyers les plus chers du Canada. Un texte d'Angie Isnell avec les informations de Corentin Mitet-Magnan, paru le 25 juin 2025 sur Ici, Colombie-Britannique. Vancouver est toujours la région métropolitaine dans laquelle les loyers sont les plus chers au Canada, selon de nouvelles données de Statistique Canada, et ce, même si les prix ont baissé depuis l'année dernière. Victoria se positionne comme troisième ville la plus chère au pays, derrière Toronto. Le loyer moyen pour un appartement de deux chambres dans le Grand Vancouver était de 3 170 $ au premier trimestre 2025, soit une baisse de plus de 250 $ depuis l'année précédente. Toronto et Victoria affichent des loyers similaires autour de 2690 $ et Montréal se place à la 17e place avec des loyers avoisinant les 1900 $ pour un appartement de deux chambres. Prix moyen des loyers en Colombie-Britannique. Les chambres individuelles dans le Grand Vancouver dépassent les 1000 $ de loyer et restent en dessous des 900 $ pour Nanaimo et Kamloops. Andrew Johnson, résident de Vancouver, paye 3000 $ pour un deux chambres de 60 mètres carrés à Yaletown. C'est absurde. C'est complètement excessif. Vous regardez des endroits comme l'Alberta où vous pouvez obtenir beaucoup plus pour beaucoup moins, dit-il. Les prix baissent depuis le début d'année. Tur Somerville, professeur à la Souther School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique, explique que les loyers ont tendance à baisser dans l'ensemble du Canada. L'histoire des marchés locatifs au Canada, c'est vraiment cette explosion des loyers de 2021 à 2023, et nous commençons à observer un assouplissement au cours de la dernière année. Le loyer demandé moyen pour un logement de deux chambres à Vancouver a commencé à augmenter au début de 2021 pour atteindre un sommet de 3 580 $ au troisième trimestre de 2023. Il y a eu ensuite une diminution de 7,8% entre le premier trimestre de 2024 et celui de 2025. Pour Tur Somerville, la présence de Victoria en troisième position s'explique par le manque de nouvelles constructions. Victoria est un endroit où il a été notoirement difficile de construire des logements. Vous aurez donc toujours un problème si vous avez de la demande sans avoir la capacité d'augmenter rapidement l'offre. En revanche, Québec connaît la plus forte augmentation, ce qui s'explique par une longue période sans augmentation de prix, selon Tur Somerville. Par exemple, à Drummondville, dans le centre du Québec, les prix ont doublé depuis 2019, passant de 600 $ en moyenne pour un deux chambres à 1 200 $. Tur Somerville fait état des restrictions des entrées des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants étrangers, réduisant la demande. Il mentionne également les importants financements fédéraux à faible coût pour les immeubles locatifs depuis 2020. C'était « Vancouver a toujours les loyers les plus chers du Canada », un texte d'Angie Esnell avec les informations de Corentin Mittet-Magnan, paru le 25 juin 2025 sur Ici, Colombie-Britannique.
Les bienfaits surprenants du camping sur la santé, un texte commandité, paru le 22 juin 2025 dans la presse. L'exposition à la nature est depuis longtemps associée à de nombreuses retombées positives, diminution de la pression artérielle et du stress, meilleur sommeil, amélioration de la santé mentale. Même les bienfaits de l'activité physique sont amplifiés lorsqu'on la pratique dans un environnement naturel comme en camping, explique le Dr Steve Pomedli, médecin traitant à Cleveland Clinic Canada et directeur médical des activités d'assurance collective de Manuvie. Voici trois autres moyens insoupçonnés par lesquels le camping pourrait contribuer à votre santé globale. Écoutez les sons de la forêt pour enrichir votre lecture et vivre un avant-goût de leurs bienfaits sur la santé. 1. C'est un redémarrage pour tout votre corps. Délaissez l'éclairage artificiel au profit d'une exposition prolongée à la lumière naturelle aide à synchroniser l'horloge biologique. Il a été démontré que le camping exerce une influence rapide sur les rythmes circadiens, soit l'ensemble des processus biologiques qui régularisent l'éveil, la faim et le repos. Une seule fin de semaine en camping a suffi pour que les participants d'une étude obtiennent environ 69% du recalibrage précédemment observé après une semaine complète d'exposition à la lumière naturelle dans des conditions tout aussi rustiques. Le Dr Steve Pomedli confirme « Adapter son horaire en fonction du lever et du coucher du soleil aide à rétablir le rythme inné de nombreux processus biologiques. Les retombées sont bénéfiques pour la santé tant physique que mentale, et cela permet de profiter d'un sommeil réparateur. 2. Ça libère l'esprit. Le camping présente une occasion à la fois d'être dans la nature de l'aube au crépuscule et de mettre de côté la connectivité omniprésente du quotidien. La recherche démontre qu'une pause des écrans peut réduire le stress et améliorer le sommeil, le niveau d'énergie, l'humeur, les fonctions cognitives et nos relations dans le monde réel, précise le Dr Pomedli. La magie s'opère en allégeant la charge mentale pour mieux vivre l'instant présent. La Dr Marie-Claude Geoffroy, PhD, professeure agrégée au département de psychiatrie de l'Université McGill, constate, elle aussi, que la nature a des bienfaits sur la santé mentale. On porte attention à la beauté qui nous entoure, comme la forme des nuages, les odeurs de la forêt et les chants d'oiseaux, souligne-t-elle. Le camping favorise un état de pleine conscience sans effort. La nature exercerait même une influence bénéfique sur les troubles du comportement chez les enfants. L'étude québécoise « École à ciel ouvert » a révélé que passer 2 heures par semaine dans un environnement naturel a eu des retombées émotionnelles positives chez les élèves de 10 à 12 ans. Les bienfaits ont été plus importants chez ceux qui présentaient des problèmes d'anxiété, de dépression, d'agressivité, d'impulsivité ou d'intégration sociale. 3. Ça renforce les liens sociaux. Diverses activités couramment pratiquées en camping peuvent contribuer à renforcer les relations interpersonnelles. J'ai 2 enfants, et lorsque nous partons en camping, chacun participe. On transporte le matériel ensemble, on monte la tente. C'est devenu une expérience que nous partageons ensemble, raconte Élise Bourret, adepte de camping. De telles expériences favorisent la communication et renforcent les liens, même lorsque la météo n'est pas au rendez-vous. Ce genre d'expérience partagée reste gravée dans notre mémoire. Elle renforce la résilience, favorise les liens et nous font apprécier pleinement la nature, ainsi que les gens qui nous sont chers. Pour moi, passer du temps en nature est aussi essentiel pour la santé que bien manger, bien dormir, socialiser et rester actif. La science appuie fermement ses bienfaits. Investissez dans votre mieux-être. Que vous dérouliez votre sac de couchage dans une tente ou dans un prêt-à-camper, le camping est la preuve qu'un choix santé n'implique pas nécessairement de grands efforts ou sacrifices. Se coucher dans un hamac, s'asseoir tranquillement dans l'herbe ou prendre une pause pendant une randonnée, ce sont des expériences qui sont difficiles à répliquer lorsqu'on est toujours dans l'urgence du quotidien, fait valoir le docteur Pomedli. Un coup de pouce pour votre prochain séjour en camping. C'était « Des bienfaits surprenants du camping sur la santé », un texte commandité paru le 22 juin 2025 dans la presse.
Pour qui la philo? Un texte d'Alain Deneau paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. Pour philosopher, apprenez qu'il faut d'abord la permission, des signatures et des raisons, un diplôme d'au moins une maison spécialisée. Félix Leclerc, chanson Contumace. Tous philosophes, nous sommes tous des intellectuels. C'est la thèse scandaleuse soutenue par Antonio Gramsci dans ses Cahiers de prison, folio. Le commun n'a rien à envier aux intellectuels organiques, soit tous ces experts, idéologues, consultants et vulgarisateurs partageant et relayant les intérêts de la classe dominante. Le commun est capable par lui-même de se renseigner, de lire et de s'opposer aux thèses admises et colportées par les pouvoirs institués. L'intelligence et la volonté sont ce qui lui reste. Regardez-le s'opposer aux promoteurs du gaz de schiste et leur méthode de fracturation. Le voilà se constituer savant en la matière et opposer des contre-expertises. Regardez-le sinon neutraliser le pouvoir dans une grève nationale au nom de l'accès à l'éducation post-secondaire. Il y va de même pour la philosophie. La sociologie nous apprend certes que des milieux sont favorisés pour produire des philosophes professionnels. Une fille de médecin ayant grandi à Outremont sera plus avantagée du point de vue du capital social et symbolique qu'un fils de mécanicien de Chibougamau pour se destiner à un travail doctoral sur Leibniz. Mais l'histoire des idées réserve néanmoins une place étonnante aux marginaux et prolétaires qui n'étaient pas censés quitter leur place à l'usine pour s'adonner eux aussi à la lecture ainsi qu'à la production de pensées conceptuelles. Karl Marx n'avait-il pas comme interlocuteur Joseph Dedekind, auteur d'un exposé par un travailleur manuel d'une nouvelle critique de la raison pure, à partir de la notion de « travail de la tête » Kopfarbeit, pudiquement traduit « travail intellectuel » à Paris? Au dernier quart du XXe siècle, Bernard Stiegler, un tenancier de bar incarcéré après quelques braquages en France, Ne s'est-il pas révélé un excellent philosophe en menant des études dans la discipline pendant ses années de prison pour en sortir reconnu par ses nouveaux pairs? Aujourd'hui encore, Simon Paré-Poupart fait connaître sa philosophie du ferrailleur dans un ouvrage soutenu paru chez Lux Éditeur, Ordure. Le friganisme désigne chez lui une éthique de la consommation que beaucoup seraient bien avisés de connaître. Ou Jean-Marc Limoges, fils d'ouvrier analphabète, explique dans Victor et moi, Boréal 2021, comment il est devenu professeur de littérature et de français en s'opposant à la doxa officielle que prodiguaient ses professeurs. Il en ressort toute une pensée de la pédagogie. D'autres font le chemin inverse. Dégoûtés par le caractère idéologique de l'activité universitaire, Matthew Crawford a poursuivi ses recherches sur le sens et la valeur du travail, tout en œuvrant comme réparateur de motocyclettes. Ces exemples ne sauraient dissimuler le pouvoir de la reproduction sociale des institutions convenues. Elles ont lamentablement échoué dans leur prétention à favoriser la mobilité sociale. Ou peut-être ont-elles partiellement échoué dans leur volonté inavouée de maintenir loin de toute pensée critique les sujets étrangers au pouvoir bourgeois. Certains échappent aux tendances lourdes. Pour le philosophe Jacques Rancière, il y va du principe même de démocratie. Il y a démocratie dans ces moments où l'intelligence est donnée en partage. Non pas que nous devenions soudainement tous égaux, mais où aucune compétence spécifique n'est dominante dans l'étude d'un problème. Faut-il envoyer nos enfants à la guerre? Doit-on accepter que subsistent d'importantes inégalités sociales? Qui peut prétendre en savoir davantage que d'autres sur cette question simple qui touche le commun en son cœur et concerne intimement son existence? Dans « Le maître ignorant », Fayard 1987, Rancière suit également les révélations de Joseph Jacotot, un professeur parachuté dans les Flandres au 19e siècle, faisant apprendre à des étudiants ce qu'il ignorait lui-même. Il a découvert alors le pouvoir de l'émancipation, à savoir que l'élève n'a pas nécessairement besoin du professeur pour apprendre, que le professeur peut même s'instituer comme un abrutisseur auprès de lui en le faisant plafonner. Si nous sommes tous philosophes et tous capables de pensée critique, force est d'admettre que nous naissons piètres philosophes. Spinoza appelait au XVIIe siècle « premier genre de connaissance », la façon spontanée que nous avons d'inférer des vérités à partir de moments strictement accidentels. On excède de cette façon mutilée de penser lorsque l'on comprend que nos haines, nos frustrations, nos colères et nos jalousies, soit nos passions tristes, sont le plus souvent le fait d'une méconnaissance des conjonctures dans lesquelles nous nous trouvons et des éléments extérieurs à soi avec lesquels nous entrons en rapport. C'était sa façon de rappeler l'hostilité traditionnelle de la philosophie à son contraire, la simple opinion. Qui qu'on soit, philosopher exige donc une prédisposition importante au travail. En l'occurrence, travailler signifie s'étonner de ce qui se présente comme banal, critiquer ce qui appartient au cours normal des choses, produire des concepts qui permettent d'articuler les éléments du réel de manière autre que convenue et soumettre à la pensée commune un certain nombre de problématiques qui déplacent le foyer des questions et font débat. L'insondable corpus et quelques penseurs contemporains nous assistent dans ce travail ardu. La pensée critique se pose comme le premier moment de la philosophie. Qu'elle soit strictement intellectuelle, comme chez Emmanuel Kant, ou politique, comme chez Karl Marx, ou psychique, comme chez Sigmund Freud, ou décoloniale, comme chez Achille Mbembe, ou sociétale, comme chez Judith Butler, elle consiste chaque fois à se questionner sur l'origine historique, sociale et idéologique des notions qui sont soumises au public ou colportées par lui. La halte critique que la critique fait subir à ces notions idéologiques et la mise en perspective historique dans laquelle elle l'inscrit suffit à la relativiser, eu égard à d'autres approches et traitements possibles. Max Horkheimer, philosophe de l'école de Francfort au début du XXe siècle, a insisté. La pensée critique entretient quant à elle-même les attentes qu'elle réserve à toute pensée. Elle doute de ses propres propositions, les soutient toujours sur le mode de l'épochet, la mise en suspens, les altère, les adapte, les fait évoluer. Là réside aussi son travail. C'est un manquement à un tel travail qui fait mal philosopher le commun. On reconnaît les travers auxquels conduit la négligence intellectuelle dans certaines théories du complot, bien que ce syntagme soit galvaudé et mobilisé bien plus souvent qu'il ne le devrait. Dans des cas excessifs où des penseurs, au nom de l'exercice critique, campent sur une position dénonciatrice, il arrive que la pensée fige au moment d'une hypothèse pour se satisfaire ensuite d'isoler les éléments semblant la conforter. Cette manifestation de paresse, qui intervient au milieu du processus intellectuel, est d'autant plus préjudiciable qu'elle se révèle séduisante aux yeux de qui ne souhaite pas longtemps s'éprouver dans le champ de la pensée. Pierre Bayard s'est référé à l'esthétique pour en témoigner, notamment dans « Qui a tué Roger Ackroyd » et « Hitchcock s'est trompé »,« Minuit ». On retrouve le même phénomène chez les xénophobes qui postulent le déclin de leur culture pourtant majoritaire ou chez les intersectionnalistes à tout craint qui réduisent les minorités à des êtres exclusivement soumis à des persécutions. Cet art touche autant, politiquement, la gauche et la droite. On m'a demandé un jour à Radio-Canada « Qui donc lit vos livres ?» J'ai répondu « Ceux qui les lisent. » Ce n'était pas qu'une lapalissade, mais une déclaration de principe. Il en va de même pour la philosophie. Qui philosophe la maintient en vie, à la condition de s'en donner la peine. C'était « Pour qui la philo ?» un texte d'Alain Deneau, paru le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.